Radio Okapi. Journal présenté par Belinda Bossouma.
L'état de siège produit des fruits dans certains coins de l'Ituri. Téné, une accalmie s'observe actuellement dans les villages situés le long de la route Bunia-Komanda, ce qui a permis le retour des habitants qui avaient fui et vaquent librement à leurs occupations. C'est ce que rapportent des sources concordantes. Plus de 100 familles sans abri à Luba, aux provinces de Lomami. C'est à la suite de la pluie torrentielle qui s'est abattue hier soir sur cette cité. L'administrateur du territoire parle d'une catastrophe naturelle et promet de faire rapport à sa hiérarchie. Et puis, l'invité de ce soir, Kassim Diagne, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies, il nous parle notamment de l'atelier de renforcement des capacités de la nouvelle équipe gouvernementale du Sud Kivu, atelier organisé récemment par la MONUSCO. Madame, Messieurs, bonsoir. Ce journal part de l'Ituri. La situation sécuritaire s'est nettement améliorée dans une dizaine de villages situés le long du tronçon Bunia-Komanda, village qui était souvent la cible des attaques des miliciens de la Force de Résistance Patriotique de l'Ituri, FPIC, en territoire d'Irumu. De nombreux déplacés ont regagné leur village et vaquent librement à leurs occupations et les véhicules circulent même la nuit sans être inquiétés, affirment des sources concordantes. Selon elles, c'est le résultat de l'état de siège décrété par le président de la République. Plus de détails avec Isaac Remoyope.
C'est depuis quelques semaines qu'une accalmie s'observe dans les chefferies des Andisoma, Mobala, Basili, qui regroupe des dizaines de villages le long de la route Bunia-Komanda. Les exactions des miliciens de la FPIC sont rares, ce qui a permis à de nombreux habitants qui avaient fui les atrocités de ces groupes armés de regagner leur milieu. Il s'agit notamment des Olu, Makayanga, Ndoya, Sililo, Marabo, Irumu et Kombokabo. Ils vaquent librement à leurs occupations. Le président de la société civile du territoire d'Irumu, Gili Gotabo.
Ce qui montre que la situation s'est améliorée parce que la population sont en train d'évacuer leur occupation sans aucun doute. Il y a des jeunes gens qui partent creuser de l'or, qui partent cultiver leurs champs.
Les conducteurs des motos et les chauffeurs circulent librement la nuit et les jours sans être inquiétés. L'un d'eux exprime sa satisfaction.
Pour le moment, la route est sécurisée, donc la sécurité est assurée. Pas de dérangement, pas d'attaque. Nous constatons que c'est le résultat de l'état de siège.
Cependant, ils demandent au gouvernement de pacifier complètement la région, car les miliciens de la FPIC n'ont pas encore déposé les armes. Le porte-parole des FARDC rassure que les opérations militaires se poursuivent pour restaurer l'autorité de l'État partout. Bunia, Isakare Moyope, Radio Okapi.
Par ailleurs, les représentants des différentes couches de la population de l'Ituri s'engagent à accompagner le programme de désarmement, démobilisation et réinsertion des ex-combattants PDDRC-S. Ils l'ont dit mardi devant le gouverneur de province, le général Johnny Luboyan Kachama. C'était au cours d'une réunion de réflexion sur le processus de paix en Ituri. Le compte-rendu de Martial Kizabiamungu.
Des notables de différentes communautés, les confessions religieuses, des structures féminines et de jeunes, mais aussi des députés nationaux et provinciaux, tous ont pris part à cette rencontre. L'objectif était de réfléchir ensemble sur les moyens d'accompagner les processus de paix en Ituri à travers le programme P22RRCS, qui sera bientôt opérationnel dans cette province.
Nous allons accompagner le programme DDRCS afin que la paix revienne finalement en Ituri.
Il y a déjà un bon nombre de groupes armés qui sont prêts pour adhérer au processus de paix.
Le président du caucus des parlementaires de l'Ituri estime quant à lui que seuls les armes ne peuvent terminer une guerre. Il y a aussi la parole, la communication dans le cadre du programme de la démobilisation et réinsertion.
Nous les parlementaires, nous sommes déjà mis à la disposition du Parlement et même du gouvernement pour sensibiliser les groupes armés locaux qui détiennent les armes afin qu'ils puissent accepter le processus de DDRC.
Pour les gouverneurs de province, le général Johnny Luboya Kachama, il faut aussi et surtout reconstruire la confiance entre les gouvernants et les gouvernés pour une paix durable. Bunia, Martial, Kiza, Biamungo, Radio Okapi.
Pendant ce temps au sud Kivu, les déplacés des villages de Lukolo et Crispin, estimés à 217 ménages, vivent dans des conditions humanitaires critiques à Toulongue 1, 2 et 3 au sud de Mississi, à l'extrême sud du territoire de Fizi. Ces ménages avaient fui les affrontements du 16 septembre dernier entre les FARDC et les présumés Mai Mai Mundusi au village de Lukolo, Crispin et Kitupa. Ils avaient quitté leur maison et ont cherché refuge à Toulongue. Fiston Goma nous raconte.
Des sources locales affirment que ces déplacés internes vivent dans des maisons abandonnées, des bâtiments d'églises et d'écoles. D'autres sont logés dans des familles d'accueil sans aucune assistance depuis une semaine. Les acteurs de la société civile dans la zone des déplacements appellent à un plaidoyer pour une intervention humanitaire rapide afin d'éviter une catastrophe humanitaire dans la région. Le président territorial de la Croix-Rouge de la RDC en territoire de Fizi confirme la situation dramatique de ces déplacés internes à Toulonge, Onésifore Kabandiloa.
Oui, j'ai envoyé le fondateur de Kimbidé basé à 15 km de Toulonge. Il a confirmé qu'il y a des déplacés. Ils sont abandonnés à eux-mêmes puisque les gens qui ont fui sans quelque chose, ils sont en besoin urgent. Il n'y a pas un programme là-bas. Ils sont en train de faire en partenariat avec les CICR un grand programme d'assistance à Nakiele, Kangouli et ailleurs. Alors, ceux qui sont venus subitement, on n'a pas suffisamment de moyens pour les aider. Pour comme c'est la saison sèche, on peut les atteindre facilement parce qu'ils sont tout au long de la route qui est accessible pendant cette saison.
Signalons qu'une équipe de l'administration civile locale de Mississi s'est rendue hier mercredi à Toulonge. Cependant, aucun détail n'a été fourni sur la situation de ces déplacés internes. Douvira Fiston, Mamayaba, la Radio Okapi.
Rendons-nous au Congo central. L'Association congolaise pour la promotion des humains, APC, ACPH, dénonce le manque de célérité dans l'ouverture de l'instruction sur l'assassinat depuis août 2020 du député provincial Albert Nsimba Sukami, élu de Mbanzangungu et suppléant de l'ex-gouverneur du Congo central. À en croire le coordonnateur de ACPH, ce dossier ainsi que celui de 8 présumés assassins qui s'étaient rendus d'eux-mêmes avaient été transférés au parquet près la Cour de cassation à Kinshasa, mais pas de suite jusqu'à ici, alors que ces personnes qui jouissent de la présomption d'innocence, d'après Colino Mbala, sont toujours privées de liberté. Le coordonnateur de l'Association congolaise pour la promotion des humains invite la justice congolaise à dire le droit de manière équitable. Il est au micro de Nana Plurish Mambo.
Nous sommes en train de s'inquiéter de pouvoir voir jusqu'à présent la procédure à l'instruction du dossier de l'assassinat de l'honorable Albert Nsimba Sukami Nzuzu ici dans la province du Congo central depuis le 14 août 2020. Jusqu'à présent, le procès est sans suite. Or, en général, la population congolaise attend que le procès soit un procès public afin que les droits puissent être dits. Nous nous soupçonnons que c'est aussi un crime d'État. C'est pourquoi nous demandons qu'il y ait le respect de la article 10 de la Déclaration des droits de l'homme, mais aussi de l'article 17 de notre Constitution de la République démocratique du Congo de 2006 modifiée à ce jour, dont la justice doit être impartiale. Il faudra qu'il y ait un délai précis à l'instruction du dossier pour que les droits à charge ou à décharge de la personne qui est présumée innocente. Il y a 6 ou 7, du moins, des prévenus qui ont été arrêtés à l'assassinat de l'honorable Albert Nsimba Sukami, mais jusqu'à présent, ces derniers ne sont pas jugés. Il n'y a rien. Nous nous posons question pourquoi cette lenteur. Nous ne sommes pas d'accord dans cet angle-là, mais nous avons confiance avec la volonté politique du chef de l'État et laisser la justice indépendante.
Rappelons que le député provincial Albert Nsimba Sukami a été tué par balle par des inconnus devant sa femme et ses enfants le 14 août 2020. C'était dans sa résidence du quartier Soyo Libanga à Matadi. Il a été inhumé 2 mois après sans procès. Je vous le disais en titre, dégâts des pluies à Lubao dans la province de Lomami. Plus de 100 familles sont actuellement sans abri dans la cité de Lubao. Le président de la société civile locale affirme que la pluie torrentielle qui s'est abattue hier soir sur cette cité a emporté les toitures de plus de 50 maisons. L'administrateur du territoire parle d'une catastrophe naturelle et promet de faire rapport à sa hiérarchie. Esther Ndalafina, reportage.
D'après Crispin Lumami, président de la société civile de Lubao, le bilan avancé est encore provisoire car les maisons continuent à s'écrouler ce jeudi. Crispin Lumami dit être victime de cette pluie et demande aux autorités d'assister la population de Lubao.
Il a plu vraiment une catastrophe, plus de dégâts matériels. Même ma maison, une partie est emportée par la pluie. Alors nous demandons si le gouvernement Lubao, on l'a jamais assisté, nous sommes comme une partie. Et la République du Congo qui est à part, qui est soustrait. Il y a beaucoup de dégâts matériels, des grands bâtiments, tout ça est croulé. Nous sommes vraiment dehors.
L'administrateur du territoire dit avoir dénombré une trentaine de maisons écroulées. Kasongo Lukengu promet de faire rapport à sa hiérarchie étant donné que le territoire n'est pas décentralisé.
En tout cas, chez moi, la résidence, la toiture de la résidence du CPAN est partie. La toiture de la résidence du chef de bureau du parti est partie, mais beaucoup de maisons, en tout cas, les églises, les taux de bonnet.
Signalons que depuis cet incident, aucune assistance n'est disponible pour soutenir les familles victimes. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Du côté de Lualaba, une semaine après le passage d'un vent violent au village Chipukwa dans le territoire de Kamina, les écoles détruites ne connaissent toujours pas le moindre début des travaux pour leur réhabilitation. D'après le ministre provincial de l'Éducation qui confirme l'information, la rentrée scolaire étant pour bientôt, les élèves de ces trois écoles ne seront pas étudiés, d'où l'appel qu'il lance au gouvernement central et aux partenaires. Ngoy Wesley, ministre provincial de l'Éducation dans le Haut-Lomami, joint par Jean Gandou.
Pourquoi un vent violent il a fait beaucoup de dégâts là-bas? Il y a des écoles primaires écroulées, il y a une école secondaire partiellement détruite. Alors, il y en a d'autres qui ont été sauvés de justesse parmi les nombreuses écoles qui sont là. Et il y a des familles qui ont commis des accidents graves parce qu'il y a des maisons qui sont écroulées sur quatre familles. Les gens des victimes, il n'y a pas eu de paix dans les humains. La population s'est mobilisée pour sauver ceux qui vivent dans les décombres de. Maison. Finalement, on vient en aide parce que bientôt c'est la rentrée scolaire. Il faut que les enfants retrouvent là où ils peuvent étudier et rentrer en appel pathétique au gouvernement central pour que l'on intervienne et à tous nos partenaires que l'on intervienne pour que ces écoles soient reconstruites rapidement pour que les enfants à la rentrée puissent avoir là où ils peuvent étudier.
Ces écoles ont au moins quel effectif?
Toutes nos excuses pour la qualité moins bonne de cet élément sonore. Ici à Kinshasa, la première pluie après une rude saison sèche à Kinshasa a mis à découvert la face cachée de certaines routes de la capitale. C'est en charriant d'une part des tas d'immondices dans des caniveaux bouchés et d'autre part en balayant la terre, en mettant à nu les bourbiers et nids de poules que la pluie de ce jeudi matin s'est ainsi illustrée. Notre reporter Jacques-Yves Molima a sillonné les communes de Kassavu, Bukala, Moulimété et une partie de Matété. Voici son reportage.
Si à première vue, la conséquence de cette pluie n'est pas très visible dans les différents quartiers et artères de la ville, néanmoins, les séquelles sont là. Ce sont d'abord des immondices qui sont charriés sur la chaussée rendant la ville malpropre. Ensuite, on parle désormais de grands nids de poules avec des eaux stagnantes presque partout. C'est le cas sur l'avenue Victoire, devant les complexes La Grâce et Bible Play. Ici, la chaussée devient de plus en plus impraticable. Qui pisait, la 14e rue est très touchée à sa sortie sur poids lourd. Des troubles avec des eaux dérange la circulation. La circulation est par ailleurs très dérangée à la bifurcation de la chaussée Kimwenza et Kapela. C'est pratiquement trois lacs qui se sont formés sur cet endroit. Les véhicules, les motocyclistes, les piétons, tous ont du mal à passer par là. Témoignage.
On se débrouille pour passer. C'est pénible. La réfection annoncée, mais depuis lors, il semble que c'est une autre entreprise qui devrait travailler sur ce rond-point. C'est encore le début, ce que tu vois. Il a plu ce matin et si c'était une grande pluie, c'est malheureux.
Alimenté, le petit boulevard sur Lumumba côté industriel se dégrade de plus en plus entre la 1ère et la 11e rue. Toujours alimenté, les habitants le long de Kalamu dans le quartier Mososo semblent finalement s'habituer et se préparent au pire car la saison de pluie ne fait que commencer.
Autre nouvelle, plus de 95% des ménages de Kinshasa consomment l'énergie de charbon de bois et la ville estimée à 12 millions d'habitants utilise 17 millions de tonnes de charbon par an à cause de l'inaccessibilité à l'électricité. C'est le résultat des études menées dans la capitale et dans les provinces voisines qui l'approvisionnent en charbon de bois. Ces résultats ont été présentés hier à Kinshasa par le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, CIRAD, ce dans le cadre d'un programme piloté par le PNUD est financé par l'Initiative pour les forêts de l'Afrique centrale. Émilien Dubiez, ingénieur agronome à CIRAD, fait l'économie des résultats de ses recherches. Il est au micro de Jean-Pierre Elali Coco.
Et aujourd'hui, nous sommes réunis avec les différents partenaires du secteur pour présenter donc les résultats de nos études sur la ville de Kinshasa. Les principaux résultats qu'on peut retenir, c'est qu'en termes de consommation, on a plus de 95% des ménages kinois qui utilisent le charbon de bois, avec une utilisation également de 66% des ménages qui utilisent l'électricité. Donc on a un mix énergétique. Ils utilisent à la fois l'électricité et le charbon, mais on a une dépendance plus importante au charbon parce qu'on a des problèmes d'accessibilité l'accessibilité à l'électricité. Un quinois à peu près par jour va utiliser autour de 2,8 kg de bois, répartis entre 0,35 kg de charbon et 0,02 kg de bois. Ça, ce sont des moyennes, des estimations par rapport aux études qu'on a conduites. Et ce qui fait qu'on a une consommation globale, on a deux types de consommateurs principaux. On a les ménages pour l'énergie de cuisson, pour préparer les aliments à la maison pour la famille. On a également des artisans qui vont utiliser soit le charbon, soit le bois de feu comme énergie de production. La consommation globale de ces acteurs sur une ville comme Kinshasa, estimée à 12 millions d'habitants, on est sur une consommation de l'ordre de 17 millions de tonnes de bois par an, qui est une quantité très importante.
Notez que les villes de Lubumbashi dans le Katanga et de Goma au Nord Kivu sont également concernées par les enquêtes de ce programme.
Actualité internationale.
L'Algérie a décidé mercredi la fermeture immédiate de son espace aérien à tous les avions civils et militaires marocains ainsi qu'aux appareils immatriculés au Maroc, a annoncé la présidence. Cette décision a été annoncée à l'issue d'une réunion du Haut Conseil de sécurité présidée par le président Abdelmadjid Tebboune et consacrée à l'examen de la situation aux frontières avec le Maroc. Cette décision a été prise compte tenu de la poursuite des provocations et des pratiques hostiles de la part du Maroc, a précisé le communiqué officiel. Sans plus de précision.
L'invité.
La MONUSCO Sud Kivu renforce les capacités de la nouvelle équipe gouvernementale du Sud Kivu. C'est ce qui justifie l'ouverture hier à Bukavu d'un atelier de 3 jours sur le thème « Bonne gouvernance pour un Sud Kivu pacifié et prospère ». Le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies, Kassim Diagne, qui a ouvert ses travaux, revient ici sur d'autres questions d'actualité, dont le plan de retrait progressif de la mission. Il s'entretient avec Rachel Kiesembangou.
Monsieur Kassim Diagne, bonjour.
Bonjour.
La MONUSCO organise un atelier de renforcement des capacités des membres du gouvernement provincial. Pour quel objectif, pour quel but?
Comme vous le savez, le gouvernement provincial vient d'être mis en place il n'y a pas très longtemps. Et nous avons jugé qu'il était important avec le gouverneur de province, le vice-gouverneur de province, d'organiser cet atelier afin d'échanger sur le mandat de la MONUSCO et ce que nous sommes en train de faire comme soutien à l'action du gouvernement aussi bien central que provincial. Comme vous le savez, beaucoup des ministres de ce nouveau gouvernement sont nouveaux. C'était juste pour des échanges de rafraîchissement, de discussion, parce que notre partenaire principal demeure le gouvernement provincial, et surtout dans cette phase où on est en transition. Comme vous le savez, il y a quelques semaines, nous venons de conclure avec le gouvernement le plan de transition pour le retrait responsable, graduel et ordonné de la MONUSCO. Donc il était important de commencer à réfléchir ensemble avec le gouvernement provincial sur ces jalons qui ont été identifiés entre le gouvernement et la MONUSCO, que ça soit dans le domaine de la protection des civils, des droits humains, des opérations conjointes entre nos forces, les forces de la MONUSCO et les forces armées congolaises, que ça soit dans le domaine de la réforme de la police nationale. Tout l'accompagnement, en fait, qu'on est en train de faire, donc je crois que ce séminaire tombe à point nommé, et je suis sûr qu'à la fin des travaux, nous allons pouvoir dégager des pistes de travail et de partenariat, de renforcement du partenariat, parce que ce partenariat existe déjà.
Comment aujourd'hui jugez-vous la collaboration MONUSCO-gouvernement provincial au Sud Kivu, surtout en matière de sécurité?
La collaboration est excellente. Et d'ailleurs, j'aimerais ici attirer l'attention sur le discours que vient de prononcer hier soir le chef de l'État congolais, le président Félix Tshisekedi, à la tribune des Nations Unies, où il a encore magnifié la coopération exemplaire qui existe entre le gouvernement congolais et la MONUSCO. Et ça se traduit à tous les niveaux, pas seulement au niveau de Kinshasa, mais au niveau des provinces, et particulièrement ici dans le Sud Kivu, où nous avons une administration sous l'autorité du gouverneur et du vice-gouverneur qui sont vraiment à notre disposition. À chaque fois que nous avons besoin de travailler, nous travaillons avec eux. Donc la coopération est excellente à ce niveau-là.
Au sortir de ces assises, qu'est-ce que vous attendrez des membres du gouvernement du Sud Kivu?
Alors, d'abord, une meilleure compréhension, je crois, de notre mandat, une meilleure approche sur les choses que nous pouvons faire ensemble, mais surtout, pour moi, c'est comment est-ce que le gouvernement provincial va s'approprier certaines des activités que nous sommes en train de mener pour eux et qui vont devoir s'approprier dans cette phase de transition. Je crois que c'est extrêmement important de le dire et je me réjouis d'ailleurs qu'au cours des petites discussions qu'on a eues tout à l'heure, qui sont juste préliminaires, qu'on a agréer l'idée de créer des petits comités techniques qui vont pouvoir donc réfléchir sur les jalons de la transition pour en fait refléter un peu le travail qui se fait au niveau national. Et je témoignais en tout cas à tout le monde, au gouverneur, au vice-gouverneur, à tous les ministres, que nous sommes entièrement à leur disposition pour les accompagner.
Quid du retrait progressif de la MONUSCO au sud Kivu, qu'est-ce que nous pouvons retenir?
Alors, ce qu'on peut retenir, c'est que d'abord, ce retrait n'est pas immédiat. C'est un retrait, comme nous l'a conseillé, ordonné le Conseil de sécurité, responsable, ordonné et graduel. Et comme je l'ai dit, nous avons déjà agréé 18 jalons pour la transition. Il y a à peu près 5 ou 6 jalons qui sont vraiment immédiats pour la province du Sud Kivu. Surtout l'environnement sécuritaire, il faut que ça s'améliore. Il y a le jalon sur le programme de désarmement et démobilisation qui est extrêmement important. Le jalon sur la réforme et l'appui au secteur de la justice, au secteur de la sécurité. Il y a le jalon sur la lutte contre les violences des droits de l'homme, et surtout les violences sexuelles. Et enfin, le jalon sur, en fait, l'accompagnement de la réforme institutionnelle, en tout cas, que les autorités mènent ici avec brio.
Monsieur Kassim Diagne, je vous remercie.
Je vous remercie.
Le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies était avec Rachel Kiesembangu. C'est la fin de ce journal préparé par Pele Kipela Mondo et Alain Rongouchinj à la mise en onde Mimi Kindou. Merci de nous avoir suivis.